Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le voyage, tout le monde en rêve. Certains s'y préparent pendant des semaines, des mois avant de s'offrir cette fenêtre, ce temps d'évasion. Mais le voyage n'est-il qu'une manière de s'échapper du quotidien? N'est-il que le rêve d'une vie faite d'aventures, rites initiatiques, temps privilégié pour faire face à soi-même, remettre en question ou rechoisir ses manières de penser? L'intérêt du voyage n'est-il pas surtout de partir pour mieux revenir? Autant de questions qu'ont déjà dû se poser mes invités de ce matin, globe-trotteur dans l'âme et voyageur invétéré. Au rendez-vous des Globetrotters toulousains, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On va voyager avec nos invités. Honneur aux dames, Daniel Boucon, vous êtes artiste, photographe et ancienne globetrotteuse et peut-être future, on verra pourquoi, bonjour.
Bonjour.
Bernard Michel, vous êtes également globetrotteur, vous êtes le globetrotteur à l'honneur en ce jour, bonjour.
Bonjour.
Et Gilles Eruven, vous êtes donc vous-même globetrotteur, il n'y a que des globetrotteurs, pré ou poste. Et vous êtes responsable donc de la programmation pour le rendez-vous des voyageurs qui a motivé donc cette émission, qui est donc un rendez-vous des amoureux des voyages et des globetrotteurs à Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, parlez bien près du micro tous. Donc ce matin on va voyager, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette émission, par contre j'ai failli faire mon sac à dos et partir après au lieu de rentrer chez moi. Le rendez-vous des voyageurs, allez, on va commencer par une question un peu plus générale, avec vous Bernard Michel, puisque vous êtes le globetrotteur qui va être le plus mis à l'honneur aujourd'hui. Comment vous avez commencé ce virus, comment on attrape le virus de globetrotteur?
Alors on attrape le virus du globetrotteur parce qu'on veut toujours aller plus loin et qu'on ne se satisfait pas de ce qu'il y a autour de chez nous, bien qu'il y ait énormément de choses à voir en France. Mais moi, c'est plutôt trotteur que je suis, c'est-à-dire que je cherche des chemins de longue randonnée et c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui m'a donné le virus.
Voilà, donc le virus, vous l'avez chopé en quelle année?
C'était en 2006.
Allez, même question pour les autres. Quand est-ce que vous avez chopé le virus, comme dit Bernard Michel, vous, Gilles Eruven?
Pour moi, oh là, c'était il y a une bonne trentaine d'années, donc lors d'une une expédition d'alpinisme, en fait, en Himalaya, au Népal. Et ensuite, après, bah, j'ai continué naturellement. J'ai découvert des paysages que je ne connaissais pas. J'ai découvert des populations que je ne connaissais pas. Et puis, bah, j'ai eu envie de continuer. J'ai continué. Mais en plus, j'avais un terrain un petit peu favorable parce que bon, j'étais passionné de géographie. Hein, donc, ça aide beaucoup.
Voilà, donc vous, c'était il y a une vingtaine d'années. Daniel Boucon, même question. Quand est-ce que vous avez chopé le virus? Est-ce que vous vous souvenez comme ça d'un moment où vous vous êtes dit, allez, là je suis pris et je ne vais plus pouvoir m'arrêter?
Ah, complètement. C'était effectivement pareil, à peu près il y a une vingtaine d'années, en l'an 2000. Voyage au Pakistan, un voyage qui a changé ma vie, ma vision du monde et des gens. Et je suis revenue de ce voyage en disant que ma vie serait différente à partir de maintenant et que je ne pourrais plus me passer du voyage.
Bon, bah dites donc, je ne sais pas si notre vie sera différente à la fin de l'émission, mais au moins peut-être qu'on aura envie de se lancer dans le voyage avec vous. Alors, le rendez-vous des voyageurs, puisque c'est ce qui a motivé, je vais y arriver, l'émission de ce matin. C'est donc un collègue qui m'a parlé de ce rendez-vous que je ne connaissais pas. Est-ce que vous pouvez commencer par nous le présenter à gros traits? Comment est née cette aventure, donc de ce lieu où les mardis et jeudis soirs, si j'ai bien compris, on peut aller soit présenter ses voyages, soit rencontrer des voyageurs? Gilles Eruven, la jeunesse de cette aventure.
La jeunesse de cette aventure, c'est au début des années 80. Au début des années 80, c'était un groupe d'amis. Bon, moi, j'étais pas là à l'époque, hein, mais ce sont les anciens qui se plaisent à le répéter. C'est presque devenu une légende. Donc, un groupe d'amis qui faisait des soirées diapo voyage, bon, comme on a tous fait plus ou moins à l'époque. Et ils ont eu l'idée de monter une association autour de ce concept. Et puis,
Que des amoureux du voyage.
Au départ, ce n'était que des amoureux du voyage. Que des amoureux du voyage. Donc, ils étaient un petit groupe. Et petit à petit, bon, ça a eu pignon sur rue, ça a un petit peu gonflé. Et puis, voilà où on en est maintenant.
Donc, ça fait combien de temps que ça existe maintenant?
En fait, on a retrouvé dans les archives... Les statues ont été déposées le 24 décembre 1982, donc voilà. la veille de Noël, c'est précis.
Donc ça fait quand même un petit bout de temps que ça dure. Alors on aura le temps de détailler un peu la programmation, mais qu'est-ce qu'on y vit? J'ai vu sur votre site internet qu'évidemment étaient présentés des voyages, mais que quelque part il n'y avait pas que ça. Il y a aussi, j'ai l'impression, toute une ambiance un peu fraternelle de voyageurs. Et puis on s'essaye aussi à quelques cuisines exotiques. Vous nous donnerez quelques détails sur les présentations plus tard, mais qu'est-ce qu'on y trouve en fait à ce rendez-vous des voyageurs?
Qu'est-ce qu'on y trouve? Bon, principalement, bon, on y trouve un accueil chaleureux. Bon, je devrais commencer par ça. Donc, tous les mardis soirs, tous les jeudis soirs, donc on se retrouve entre voyageurs ou entre gens qui aiment le voyage, qui ne voyagent pas nécessairement, qui viennent là pour voyager aussi par procuration. Donc, autour d'un thème de voyage.
Alors, mettez-nous en bouche, on en reparlera la fois prochaine. Par exemple, donc mardi prochain, si on va chez vous, on aura donc Pascal De Noël qui va nous parler de l'Amazonie. Vous pouvez nous le présenter brièvement?
Pascal De Noël, c'est un grand voyageur devant l'Éternel. C'est quelqu'un qui, ces deux dernières années, il est allé au pôle Nord, il est allé au pôle Sud.
Vous dites qu'il est allé comment, en fait? À ski, c'est ça?
À ski, oui. À ski, et puis là, il viendra nous parler plutôt de l'Équateur, entre les deux, puisqu'il rentre d'Amazonie. Il est allé visiter une tribu, la tribu des Matsé, une tribu qui est relativement isolée au fin fond de la forêt amazonienne.
Voilà, donc ça fait envie. Alors c'est vrai qu'on trouve sur votre site internet des renvois vers un certain nombre de voyageurs. Il y a comme ça, j'allais dire presque des fous furieux du voyage, peut-être qu'il n'aimerait pas le qualificatif, comme Pascal De Noël. J'ai vu aussi Jamel Bali, qui est passé, je crois, chez vous. Hein.
Oh là, il y a de nombreuses années, je crois que je n'étais pas encore dans l'association.
Donc, j'ai découvert donc, un marathonien qui est le premier homme à avoir fait le tour du monde en courant,
oui.
Qui a en 18 mois rejoint Notre-Dame de Paris jusqu'à Lhasa en passant par Lourdes, Rome, Jérusalem, La Mecque et Bénarès. Mais on trouve aussi, preuve qu'il n'y a peut-être pas que des stars en fait, qui viennent, des renvois vers des sites internet. J'ai trouvé Vincent pour 100 photos, la Terre vue d'1m92. Voilà un homme qui raconte un peu ses voyages entre autres au Kyrgyzstan et Natacha et Vincent, un jeune couple qui font le tour du monde. Il n'y a pas besoin d'être un grand globe-trotteur pour intervenir. Il n'y a pas que des stars qui interviennent dans votre rendez-vous des voyageurs.
Ah non, pas du tout. Vous-même, Emmanuel, si vous le souhaitez, on vous fait une petite place dans le programme.
C'est vrai, vous voyez, je fais juste du vélo entre chez moi ici, hein, donc je sais pas si ça va être très passionnant.
Sans aller très loin, non, mais même ne serait-ce que la traversée des Pyrénées ou quelque chose comme ça. Donc récemment, on a eu quelqu'un donc qui est allé en Lozère, là, qui a fait le chemin de Stevenson. Donc c'est un voyage à pied, c'est pas un voyage nécessairement exotique.
Et il peut en parler devant les autres. Il se fait pas huer parce qu'il a pas fait le tour du monde en courant.
Ah non, absolument pas. Au contraire, le voyage commence dès que vous sortez de chez vous, vous traversez la rue et puis le voyage peut commencer. Là.
J'aimerais bien qu'on parle un petit peu des voyages et peut-être de la mode des voyages. Alors je me suis mis un certain nombre de chiffres, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour les auditeurs et peut-être pour vous, mais vous, j'imagine que vous les connaissez. Le pays le plus touristique du monde, donc objet quelque part du plus de voyages, ça n'est un mystère pour pas grand monde, c'est donc la France. Plus de 86 millions, c'était en 2017. Voilà, après, je ne sais pas si c'est très politiquement correct, mais les touristes vont surtout à Euro Disney, donc est-ce du voyage? La question est posée. Et puis j'ai trouvé donc, les autres pays, ce sont l'Espagne, les États-Unis, la Chine, l'Italie, le Mexique, on est environ autour de plus de 40 millions. Et j'ai trouvé, alors là je vais vous poser une colle, quels sont les pays du monde qui sont les moins visités? Allez, les globe-trotteurs que vous êtes, donnez-moi un top 3 et vous êtes obligé de répondre tout de suite. Daniel Boucon, à votre avis, 3 pays où les gens ne vont pas souvent?
Mais déjà des pays peut-être où il y a des contraintes fortes, soit politiques, soit voilà, qui font que c'est compliqué d'y aller. Peut-être par exemple des pays comme le Pakistan, ça doit être un pays peu touristiquement visité.
Pakistan, vous qu'est-ce que vous diriez, Gilles et Ruven?
Actuellement, je dirais l'Irak.
L'Irak, et vous?
Les pays en guerre aussi, puisque ça c'est plus difficile, donc l'Éthiopie, l'Irak, la Syrie.
Je sais pas, alors de fait, vous êtes pas très loin, mais alors le top 3, je vous le donne. Un, c'est le Bangladesh, alors c'est rapporté à la population. Hein. 125 000 touristes pour 159 millions d'habitants. La Guinée, 33 000 touristes pour 12 millions d'habitants. Et la Moldavie, 11 000 touristes pour 3 millions d'habitants. Voilà, je vous donnerai la liste à la fin de l'émission. C'est juste pour sourire. Est-ce que vous diriez qu'il y a une mode des voyages? On a l'impression que parfois aujourd'hui... voilà, de plus en plus de gens voyagent, enfin, pas, c'est pas une impression, depuis l'après-guerre, c'est le cas aussi, hein. Ou depuis le début du siècle, entre autres avec les congés payés. On dit maintenant qu'il y a aussi les classes moyennes émergentes dans les pays dits en voie de développement, qui certains aujourd'hui sont très développés, qui voyagent de plus en plus. Donc, de plus en plus de terriens voyagent, Gilles et Ruven. Ça, vous avez l'air sceptique.
Oui, bah c'est vrai que les voyages sont de plus en plus accessibles, ne serait-ce qu'économiquement. Mais bon, je voudrais dire aussi que bon, on a toujours voyagé, hein, a toujours l'immigration. L'Homo sapiens vient d'Afrique, hein, donc on s'est toujours déplacé depuis la nuit des temps.
Voilà, mais c'est pas. Disons qu'il y a voyage et voyage entre se déplacer okay, d'Afrique alors, pour venir en Europe et puis aller passer une semaine au Pakistan, c'est quand même une chose différente.
Ce qui a évolué, c'est la motivation du voyage. Maintenant, on voyage beaucoup pour nos loisirs. Bon, on voyage aussi pour des raisons professionnelles, économiques, bien sûr. Mais maintenant, c'est surtout les loisirs. Hein.
Est-ce que vous avez l'impression, les uns les autres, qu'il y a une mode du voyage? On a l'impression parfois que pour la jeunesse aussi, c'est une forme de rite initiatique. C'est-à-dire, il y a des pays comme ça, je crois, comme en Israël et d'autres, hein, il me semble en Australie, beaucoup de jeunes, en fait, à la fin de leurs études ou après leur service militaire ou avant, partent pendant un an ou deux et voyagent. Alors, c'est peut-être surtout des pays dits développés. Qu'est-ce que vous pensez de cette mode des voyages, Bernard Michel?
Ben en fait, oui, effectivement, dans les pays comme les États-Unis, l'Australie, les pays asiatiques comme la Corée aussi, donc les jeunes profitent du break entre la fin de leurs études et l'entrée dans la vie active, où il va falloir être performant pour justement prendre du temps pour eux et découvrir autre chose que le pays ou la société qu'on leur promet. Ça, j'en ai rencontré beaucoup.
Vous en avez rencontré beaucoup lors de vos voyages, oui.
Et inversement, il y a aussi beaucoup de Français qui profitent déjà d'Erasmus, qui est un très bon outil pour voyager, ou pour prendre le virus, comme on dit, et qui profitent aussi d'un break dans leur carrière professionnelle, donc pour voyager et prendre du temps pour eux, oui.
Daniel Boucon, qu'est-ce que vous pensez de cette mode des voyages?
Oui, je dirais, j'ajouterais par rapport à ce que dit Michel, c'est que, effectivement, je dirais même que les jeunes, en fait, sont très encouragés à aller soit faire une partie de leur étude à l'étranger, soit à partir faire des expériences à l'étranger. Je peux parler, par exemple, pour ma fille qui, elle, depuis plusieurs années, n'est quasiment pas revenue en France. Et qui travaille et qui voyage en permanence dans le monde. Mais c'est aussi le cas de beaucoup de ses amis du même âge. Et effectivement, alors si on parle de mode, je dirais qu'en ce moment, l'Australie, c'est un pays à la mode. Il y a beaucoup de jeunes qui vont en Australie. Le Canada me semble aussi une destination pour les jeunes, en tout cas.
Et qui restent en Australie, je crois. Hein. Ils font ce qu'on appelle du woofing, c'est ça? Ils travaillent sur place un certain temps.
Ouais. Effectivement, c'est aussi une destination apparemment à la mode.
Allez, avant de faire une première cause, j'aimerais que vous nous parliez de tourisme responsable. J'ai trouvé un lien qui renvoie sur un site internet, sur donc le site du Rendez-vous des Voyageurs, sur Ecoway. Et donc, j'avoue, j'ai découvert le tourisme responsable. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est, Gilles et Ruven, le tourisme responsable?
Tourisme responsable, c'est quelque chose de... Moi, c'est... J'ai du mal à trouver une définition, c'est quelque chose d'assez vaste, hein. Ça peut recouvrir beaucoup de choses. Actuellement, on a plutôt tendance à considérer le tourisme responsable sous l'aspect, plutôt sous l'aspect écologique, hein. Bon, je pense à Ecoway, l'association Ecoway, qui fait également agence de voyage, donc qui est très implantée côté Amérique centrale, au Costa Rica en particulier, hein.
C'est quoi cette association? Vous la connaissez un petit peu? Vous pouvez en dire
Je l'ai, connue, je ne sais pas comment... moi, ce qu'elle en devient actuellement, elle avait un pied-à-terre à Toulouse. Maintenant, elle est surtout centralisée sur Paris. Hein. Donc, elle a organisé des voyages éco-responsables. Je dis bien éco-responsables. Donc, entre autres au Costa Rica, en Afrique.
Alors je vais vous aider, Ecoway, voilà ce qu'ils disent sur leur site internet. Ils disent que le tourisme responsable, c'est un tourisme qui respecte un certain nombre de choses, l'impact environnemental du voyage, les impacts sociaux et les retombées économiques locales. Voilà, et entre autres, ils expliquent, et vous disiez ça tout à l'heure pour les pays les moins visités, que voilà, il faut savoir avoir un comportement moral lors de ces voyages. Ils citent entre autres la Birmanie, l'un des régimes les plus répressifs au monde, qui vit en partie du tourisme, et c'est surtout la junte militaire qui vit du tourisme. Et ils expliquent que derrière le tourisme, il y a beaucoup de travail forcé, de déplacement de population, et donc d'enrichissement de ce régime militaire. On va faire une première pause, et puis on va vous retrouver. On va retrouver Bernard Michel, entre autres, qui va nous parler de ses aventures. Allez, pour nous mettre en bouche, racontez-nous en deux mots ce voyage au Japon. Vous avez fait un tour des sanctuaires du shintoïsme, c'est ça ?
Alors, en fait, dans la foulée de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai voulu marcher sur un autre chemin d'origine religieuse et j'ai trouvé un pèlerinage bouddhiste consiste à visiter 88 temples sur une distance de 1200 km sur l'île de Shikoku au Japon. Donc, voilà. L'île la moins connue du Japon.
Donc, restez avec nous et on va essayer de voyager au Japon.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Au rendez-vous des Globetrotters toulousains, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Gilles Ruven, qui est responsable de la programmation de ce lieu, de cette association, le rendez-vous des voyageurs, les mardis et jeudis soirs, Bernard Michel, Globetrotter, et Daniel Boucon, également Globetrotteuse, pour l'instant blessée, et aussi artiste photographe. Comme promis, ça n'empêche pas aux autres évidemment d'intervenir, le Globetrotter mis à l'honneur ce soir, c'est donc vous, Bernard Michel. Vous nous avez dit que vous aviez attrapé le virus sur les chemins de Saint-Jacques. Ça ne sera pas pour nous déplaire, à cette antenne on essaie d'en parler souvent, surtout que la majorité, en tout cas des chemins français, sont situés en Occitanie, voilà, cocorico. Mais on s'est dit que vous allez nous parler donc de trois voyages, un au Japon, un aux États-Unis, ou plutôt trois marches, et un projet de marche en Chine. Alors commençons par donc ce pèlerinage de Shikoku, ou Shikoku, c'est comme ça qu'il faut dire, Shikoku. Et alors voyez, moi j'ai pas la chance d'y être allé, alors en bon rat de laboratoire, je suis allé sur Wikipédia, et voilà ce qu'on trouve. Le pèlerinage de Shikoku est un pèlerinage effectué sur l'île de Shikoku au Japon, qui comprend 88 temples. C'est un pèlerinage circulaire consacré à Kobo Daishi, le fondateur du bouddhisme, Shingon, mais on y trouve et on y retrouve des pèlerins de toute tradition. Alors, racontez-nous ce qu'est ce pèlerinage de Shikoku. Déjà, peut-être comment vous en avez entendu parler, tout simplement.
Alors, comme chaque fois, ça s'est reproduit plusieurs fois. Donc, à la fin du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis arrivé à Fisterra, donc à l'océan Atlantique. Je n'ai pas trouvé de coquille Saint-Jacques, mais dans l'albergue municipal, il y avait un tableau avec des autocollants. Et dans ce tableau, il y avait un autocollant sur le pèlerinage de Shikoku. Et donc, j'ai dit, c'est ma prochaine randonnée.
Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ce pèlerinage? Donc vous disiez, il fait 1200 km de long, c'est ça?
Oui, il fait 1200 km de long, et comme vous disiez, c'est une boucle, puisque dans le bouddhisme, on est censé renaître à l'occasion de différentes choses, et cette boucle permet de renaître, donc de repasser par le départ en ayant toute l'expérience du chemin, et donc d'être un nouvel homme ou une nouvelle femme. Donc c'est le but de ce voyage, de cette randonnée qu'on peut faire de toutes les façons qu'on veut. Moi, je l'ai faite en marchant et avec le costume du Enro. Donc le Enro, c'est le pèlerin japonais.
Ça ressemble à quoi, ce costume?
Alors c'est un costume avec un chapeau chinois. On dit chinois en France, hein, mais ça a un autre nom au Japon. Une veste blanche, un pantalon blanc et des gants blancs, ainsi qu'un bâton avec une petite clochette.
On marche en blanc tout le temps?
Voilà, en blanc, parce que le blanc,
ça reste blanc combien de jours?
Ça reste blanc pas longtemps, mais on peut le laver aussi. Donc, et sur le vêtement est écrit que Kobo Daishi marche avec nous.
Kobo Daishi, on n'est jamais seul. Étant le fondateur du bouddhisme Shingon, c'est
voilà.
Ça, comme ça,
donc,
qu'on dit Shingon?
Shingon, oui. Et l'autre religion du Japon, c'est le shintoïste. Donc Kobo Daishi, c'est un fils de grande famille qui est parti en Chine. Et en Chine, il a découvert deux choses, l'écriture chinoise et le bouddhisme. Et il a ramené les deux au Japon, puisque le Japon n'était pas un pays qui écrivait. C'était une tradition orale. Donc il a introduit les caractères chinois pour l'écriture. Donc c'est un ingénieur fonctionnaire qui a développé des barrages, qui a développé plein de choses, et il est revenu sur son île de naissance, donc Shikoku. Et là, à chaque fois qu'il faisait une pause dans son voyage spirituel, les gens l'écoutaient et construisaient un temple. Donc le but de ce pèlerinage, c'est de passer par tous les temples qui ont été construits à la suite de ce pèlerinage spirituel que Kobo Daishi a fait pour renaître en tant que grand prêtre bouddhiste.
Alors pourquoi est-ce qu'on est habillé en blanc? Qu'est-ce que ça signifie dans cette tradition spirituelle?
Alors là, j'ai pas beaucoup de souvenirs de la couleur du blanc, je pourrais pas vous dire, j'ai fait ça en 2011. Et pour moi, c'était d'abord découvrir le Japon de la manière la plus, euh, euh, la plus difficile et facile en même temps, c'est-à-dire marcher dans un pays avec les gens et participer à la vie du pays en marchant et en m'arrêtant.
On s'arrête dans quoi en fait? Il y a l'espèce d'auberge au long du chemin, comme sur les chemins de Saint-Jacques?
Non, parce que c'est pas vraiment organisé comme le chemin de Saint-Jacques. Par contre, dans chaque ville ou village japonais, il y a des hôtels traditionnels. Et moi, j'avais choisi d'aller dans les hôtels traditionnels parce que le camping n'est pas très développé. Planter sa tente au bord d'un chemin au Japon, c'est pas très...
Est-ce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui marchent sur ce chemin? Vous êtes beaucoup en blanc comme ça à marcher?
Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de pèlerins, surtout japonais, qui marchent ou qui viennent en bus ou en moto. Donc, il y a divers moyens de se déplacer, mais ils sont très nombreux parce que pour eux, c'est vraiment une réalisation, la réalisation d'une vie que de faire ce pèlerinage.
Pour finir, avant qu'on parle d'un autre voyage, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce chemin? Si vous êtes revenu avec peut-être une chose qui justifiait ce voyage, ça serait quoi?
Ah ben, l'accueil. Les Japonais sont... Alors, j'avais appris le japonais pour justement briser la glace lors des premières conversations, mais une fois que cette glace est brisée...
Ça veut dire quoi, vous avez appris le japonais? Vous maîtrisiez un petit peu ou vous étiez...
Oui, konnichiwa, watashiwa, Bernard des, furansujin des.
Voilà, donc, vous aviez appris des rudiments, en tout cas,
j'ai appris les rudiments pour me présenter et pour dire que j'étais français. La France séduit les Japonais, donc là aussi c'était un atout pour être accueilli. Et après, les Japonais peuvent continuer en anglais, mais c'est d'abord à vous de faire le premier pas.
Et sans être indiscret, est-ce que l'aspect spirituel, à un moment, vous a posé question? J'imagine que vous êtes intéressé au bouddhisme un petit peu.
Alors, pas vraiment, mais par contre, quand on est dans un temple, le silence et le recueillement de tous ceux qui sont dans le temple, donc les moines et les pratiquants, est tellement impressionnant que on par respect d'abord et puis par esprit de naturel, on fait la même chose. Et moi, je voulais vraiment respecter ça, donc j'ai fait le petit rituel de la prière. Alors, je faisais le rituel pour moi, c'était comme un théâtre, mais j'avais quand même une pensée pour ceux qui étaient en France, d'autant plus que j'étais là-bas à l'époque de Fukushima. Donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur pour moi, mais j'ai voulu rester parce que les Japonais aussi restaient. Et donc, j'ai terminé mon périple sans encombre.
Alors, on va parler d'un autre voyage maintenant. C'est le Pacifique Crest Trail. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut prononcer. Cette fois, c'est un parcours donc, allant de la frontière mexicaine à la frontière canadienne, long de 4240 km, qui parcourt la plus grande partie de la Sierra Nevada et de la chaîne des Cascades. Donc le Pacific Trail qui est situé pas tout à fait sur l'océan Pacifique, mais on va dire côte ouest. Donc vous avez traversé les États-Unis du sud au nord. Ça correspond à quoi ce chemin? Parce que les pionniers, ça devait pas être le chemin des pionniers.
Alors c'est en fait un système qui relie tous les chemins des pionniers qui ont été fondés pendant la conquête de l'Ouest.
Mais les chemins des pionniers, ils allaient de l'Est à l'Ouest, ils n'allaient pas du Sud au Nord?
Oui, effectivement, mais de temps en temps, ils avaient, du fait du relief, ils pouvaient aller du Nord au Sud et puis ou du Sud au Nord, et aussi pour chercher de l'or. L'or n'était pas forcément... Là, les accès n'étaient pas aussi directs, donc il fallait le chercher aussi en remontant les montagnes et les forêts jusqu'à trouver les mines d'or.
Vous en aviez entendu parler les uns les autres? Je ne sais pas, Gilles et Ruven, avant qu'ils le viennent le présenter au rendez-vous des voyageurs, vous connaissiez ce Pacific Crest Trail?
Oui, j'en avais entendu parler en tant que montagnard et ancien alpiniste, oui. Bien sûr.
Pourquoi? C'est un parcours mythique pour les alpinistes?
Non, c'est pas vraiment mythique. Ce qui est mythique, c'est un parcours de crête en fait, hein, qui fait la ligne de partage des eaux entre l'est et l'ouest. Bon, grosso modo, hein. Et surtout qui relie la frontière mexicaine à la frontière canadienne par les crêtes.
Daniel Boucon, vous en aviez entendu parler ?
Alors, pas du tout, je le découvre, bon, avec beaucoup
bien.
D'intérêt.
Mais vous avez bien fait de venir ce matin.
Tout à fait.
Donc, c'est un chemin de crête. Donc, en fait, on passe son temps dans les montagnes. J'ai vu que le principal sommet était à plus de 4000 mètres. À quoi ça ressemble, en fait, ce Pacific Crest Trail ?
Alors, en fait, le Pacific Crest Trail, donc crest, c'est pour les crêtes. Et le but, c'est d'avoir les meilleures vues possibles pour celui qui marche sur ce sentier. Et ça commence, il y a 5 sections. Donc le désert californien au sud de la Californie. Après la Sierra Nevada, donc, qui est une montagne élevée puisque le sommet est à 4400 mètres d'altitude.
4400, d'accord.
Après, il y a la fin de la Californie qui est assez forestière, et on continue par l'état de l'Oregon qui est une forêt et c'est presque un tunnel vert, et on finit en beauté dans l'état de Washington, donc avec Seattle, la ville de Boeing, avec des mini Alpes où les paysages sont vraiment sublimes. Donc
ça vous a pris donc 5 mois. Vous dites que ce n'est pas un chemin très fréquenté, enfin vous me disiez ça en préparant l'émission, il y a 3-4 000 personnes qui le font par an.
C'est ça, oui. C'est ça, il y a 3 ou 4 000 personnes qui le tentent chaque année. Il n'y en a que 600 ou 700 qui le finissent.
À quoi ressemblent alors ces fous furieux de la montagne ? C'est les gens qui viennent du monde entier ? C'est les Américains ?
Alors il y a une majorité d'Américains évidemment. Dans les Américains, il y a une majorité de Californiens. Et puis du monde entier, il y avait beaucoup d'Allemands à l'époque, donc je l'ai fait en 2016, il y avait beaucoup d'Allemands, mais j'ai rencontré des Coréens, des Japonais, des Mexicains.
Donc c'est de l'alpinisme en fait surtout ?
Alors non, c'est une randonnée, c'est un sentier comme le GR10, et qui est en plus taillé pour que les chevaux puissent le faire. Donc les montées sont adoucies pour que les chevaux puissent monter la montagne.
Il y en a qui le font
donc
à cheval.
C'est donc beaucoup moins escarpé que le GR10 ou le GR20 en France. Donc il y en a qui le font à cheval, oui. Et donc seuls ceux qui le font à pied ou à cheval peuvent le faire. Les VTT sont interdits. Et donc on traverse une multitude de parcs naturels américains, donc c'est de toute beauté. Il y a aussi des ours, des renards, des lynx, des loups.
Est-ce que vous avez découvert des belles choses sur les Américains ? Parce que c'est vrai qu'en France on a souvent la dent dure à l'égard des Américains, on les caricature beaucoup. Qu'est-ce que vous avez découvert chez les Américains que vous avez vu ou croisé qui vous a frappé et touché ?
Alors, ce qui m'a touché le plus, c'est les Trail Angels. Donc, les Trail Angels ou anges du chemin, c'est des gens qui ravitaillent les randonneurs, soit en déposant des jerrycans d'eau, des bouteilles d'eau dans le désert, soit des canettes de coca ou autre boisson énergisante.
C'est-à-dire que tout le long du chemin, il y a des espèces de petites fées comme ça qui laissent des choses,
tout
c'est
ça ? Tout le long du chemin, oui. Des petites fées et aussi des gens qui vous descendent en ville sur un coup de voiture. Donc ils attendent au bord de la route des randonneurs qui passent et qui veulent aller se ravitailler en ville pour les remonter après dans la
forêt. Donc les Américains ont un grand cœur, contrairement à l'idée qu'on s'en fait ou à ce qu'on montre d'eux.
Tout à fait, et il y en a d'autres qui ont des maisons assez grandes et qui accueillent les randonneurs chez eux pour une nuit, qui leur donnent la possibilité de prendre une douche, de laver les habits dans une machine à laver, et tout ça pour rien, ou pour ce qu'on a envie de donner.
Dernier voyage dont vous allez nous parler, c'est la Grande Muraille. Donc vous, c'est un projet, vous avez envie de marcher le long de la Grande Muraille de Chine, si j'ai bien compris, dans une zone compliquée. Mais j'aurais une question en préambule, peut-être indiscrète, mais en même temps vous saviez que vous veniez dans une émission de radio. Bernard Michel, allez, une un peu moins indiscrète. À quoi on pense quand on fait 4200 km comme ça à pied ? On passe son temps à regarder le paysage et à la fin on n'arrive à plus penser ? Ou est-ce que c'est aussi tout un travail en fait d'introspection et de
alors en fait
de voyage intérieur ?
C'est pas vraiment un voyage intérieur pour moi, c'est pas une introspection. Par contre, effectivement, j'y vais pour la nature et observer la nature et profiter de la nature sans la pollution de la civilisation. J'ai vu un nombre d'étoiles, vous pouvez pas vous imaginer.
Il y en a plus que ce qu'on croit, c'est ça ?
Il y en a plus que ce que vous croyez et plus que vous avez jamais vu en France, parce qu'il y a trop de lumière en France pour voir toutes les étoiles. Là-bas, donc la Voie lactée, elle était vraiment lactée. et non, c'est pas une introspection. Par contre, on se vide de tout ce qui n'est pas nécessaire dans la tête. Et donc après, il y a des bulles de mémoire qui remontent. Et je me suis rappelé de schémas électriques que j'ai fait au début de ma carrière où je m'apercevais que j'avais fait des erreurs. Maintenant que j'ai l'expérience, je me suis rappelé le nom de gens avec qui j'ai travaillé ou que j'ai côtoyé, que j'avais complètement oublié. Le cerveau se vide de tout ce qui n'est pas nécessaire, parce que bien sûr, ce qui est nécessaire, c'est marcher, se ravitailler, dormir, être en forme, faire attention à ne pas se faire mal. Voilà.
Mais alors, par exemple, donc, votre projet, pour finir, avant qu'on fasse une deuxième pause, sur la Grande Muraille de Chine, j'ai l'impression que vous avez le projet d'aller dans un lieu qui est pas quoi, qui est à moitié autorisé, qui est un peu dangereux.
Donc, dans la suite de mes projets...
Expliquez-nous le projet, et puis après, oui. Vous faites quoi, en fait ? Vous jouez à vous faire peur, ou c'est...
Non, pas du tout. Donc, dans la suite de mes projets, je fais un grand projet comme ça tous les 5 ans. Parce que, comme vous disiez au début, il faut le préparer. Et là, c'est pas quelques mois, c'est plutôt quelques années de préparation.
Si vous apprenez le japonais, c'est sûr qu'on imagine ça.
Et j'apprends le chinois en même temps.
Ah oui.
Donc, pour me préparer au mieux. Il y a aussi le fait qu'il faut un peu d'argent pour financer tout ça. Donc, 5 ans, ça permet d'en mettre un peu de côté. Et donc, ça sera pour 2021. L'idée, puisque j'ai déjà fait 4000 km, c'est d'en faire, trouver un endroit où il y a plus que 4000 km à faire. Et la muraille de Chine, l'époque Qin, donc l'époque Ming, pardon, qui est la dernière qui a été construite, fait 6800 km. Donc, je vais essayer d'y aller 8 mois.
Et pourquoi c'est une zone un peu dangereuse là-bas ? C'est une zone peu empruntée, c'est
disons ça ? Disons que la muraille de Chine est au patrimoine de l'UNESCO, donc est protégée. Et bien sûr, les Chinois et le gouvernement chinois qui s'occupe de cette muraille n'a pas envie qu'elle soit dépréciée ou
détruite.
Ouais. Donc, il n'encourage personne à marcher dessus ou le long, sauf dans les zones qui sont... touristiques qui ont été dédiés à ça. Hein. On parlait de Disneyland. Donc moi, le but, c'est d'essayer de la suivre au plus près. Et en septembre, j'y suis allé. Septembre 2018, donc, j'y suis allé pour 3 semaines pour voir si c'était faisable. Et donc, j'avais la crainte de ne pas pouvoir ou d'être empêché par la police ou par les habitants, les autochtones, de m'approcher de la muraille. Mais non, j'ai pu vérifier que c'est tout à fait faisable.
Voilà, donc vous avez marché dans une zone sauvage. C'est vrai qu'on peut trouver des images sur Internet de la muraille de Chine. Quand c'est pas le Euro Disney local, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est aussi un chemin de crête et on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de monde. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Avant cette deuxième pause, je vais vous donner une citation. Vous connaissez certainement Sylvain Tesson, les uns les autres.
Oui.
Voilà, tout le monde lève les yeux au ciel, évidemment. Quelle injure. Sylvain Tesson, donc grand voyageur devant l'éternel, grande figure médiatique et écrivain, entre autres, qui est parti donc en Sibérie, qui a écrit un livre dans les forêts de Sibérie. J'ai vu que son dernier livre, c'était Un été avec Homer, mais j'ai pas les maisons d'édition. Et alors, je me suis trouvé quelques citations. On verra si vous êtes misanthrope ou pas. Il est bon de n'avoir pas à alimenter une conversation, d'où vient la difficulté de la vie en société de cet impératif de trouver toujours quelque chose à dire. Je ne sais pas si les globetrotters sont des misanthropes, on verra ça après cette deuxième pause musicale.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Au rendez-vous des Globetrotters toulousains, c'est pour rappel pour ceux qui nous rejoindraient, donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission donc de voyage, avec autour du plateau donc trois Globetrotters, Daniel Boucon, Bernard Michel et Gilles Héruven. Gilles Héruven étant responsable donc de la programmation du rendez-vous des voyageurs, donc qui a motivé cette émission, lieu de rencontre à Toulouse. On donnera les informations pratiques à la fin de cette émission pour tous les amoureux du voyage. Et Daniel Boucon, artiste aussi et photographe. Alors on va vous donner la parole dans un instant, mais juste une petite incursion sibérienne, puisqu'on parlait de Sylvain Tesson, qui avait fait, avant la pause, donc cet écrivain voyageur qui a fait un voyage en Sibérie, qui est resté combien, 4 mois ou 6 mois dans une cabane
Sylvain Tesson est resté 6 mois sur les bords du lac Baïkal en plein hiver.
Voilà, dans une cabane, et il en a donc tiré un ouvrage dont je vais retrouver le titre. Et vous nous disiez pendant la pause qu'au-dessus du Transsibérien, Gilles Héruven, il y a une autre ligne, peut-être encore plus mythique donc pour les amoureux du voyage. Racontez-nous juste, dites-nous quelques mots de cette ligne de chemin de fer mystérieuse.
Oui, bon, déjà le Transsibérien, ce n'est pas un train, c'est une ligne de chemin de fer sur laquelle circulent des trains. Des trains à grande ligne, des trains à petite ligne, etc. Et cette ligne transsibérienne a été construite au tournant du 19e siècle. 19e siècle, 20e siècle. Et elle a été construite relativement près de la frontière chinoise, en fait. Et les Russes et les Soviétiques, par la suite, ont toujours eu une crainte des Chinois, de l'Empire chinois. Et donc, ils ont souhaité recréer une ligne qui soit beaucoup plus au nord et qui soit à l'abri d'éventuelles incursions chinoises.
Et alors, quand on va là-bas, qui on croit sur cette ligne de chemin de fer?
C'est une ligne de chemin de fer, donc, comme on disait, qui est 500 km au nord, qui passe dans la taïga. Qui passe dans la taïga, on rencontre très très peu de villages. Et sur ces lignes de chemin de fer, on rencontre relativement peu de touristes, de voyageurs, de gens comme nous, contrairement aux Transsibériens. On rencontre essentiellement des employés de la ligne de chemin de fer, des employés des trains, et puis des mineurs aussi, des mineurs qui vont dans les mines de Sibérie, qui vont après beaucoup plus au nord, qui s'arrêtent dans les gares de temps en temps, qui ensuite prennent un transport pour aller vers le nord.
Voilà, vous nous faites rêver là. Je sens que je vais aller voir sur internet après à quoi ça ressemble. On va finir avec vous, Daniel Boucon. Quand même, enfin, on va vous donner la parole. Vous êtes donc vous-même globetrotteuse. Hein. Vous m'avez dit, on prépare l'émission, que vous avez fait de nombreux voyages en Libye, Tunisie, enfin bref, dans des déserts et chauds ou dans des déserts de glace. Donc pour les déserts chauds, Libye, Tunisie, Algérie. Pour les déserts de glace, l'Himalaya, les îles Spitzberg, la Patagonie. Et puis vous avez eu un accident et donc vous avez mis un petit peu le holà à vos voyages et vous avez continué ou particulièrement développé donc le thème du voyage mais à travers l'imaginaire et la photographie. Il y a une exposition donc au Basacle jusqu'à dimanche soir intitulée Le petit bateau qui voulait voir la mer. Alors faites-nous une balade dans ce lieu, peut-être que vous pouvez commencer par décrire le Basacle et puis racontez-nous en quelques mots en quoi consiste cette exposition.
Alors cette exposition, effectivement, peut-être en effet commencer par le lieu. Le Basacle, c'est un lieu qui est situé vraiment au cœur de l'eau. Il y a la Garonne à côté, on entend de l'eau partout. Et en fait, c'est aussi pour cela que j'ai proposé cette exposition en tout premier sur ce lieu-là. C'est effectivement la première fois que cette exposition est proposée. Donc on est, c'est de galeries qui font à peu près une centaine de mètres, et ces deux galeries permettent, donc voilà, cette exposition en fait qui s'appelle Voir la mer, le petit bateau qui voulait voir la mer, c'est vraiment le titre du livre pour jeunes qui est associé. Donc cette exposition Voir la mer, elle montre par la lorgnette, je dirais un petit peu originale, le canal du Midi par la lorgnette d'un petit bateau en papier. Et au niveau de ce petit bateau en papier, comme on n'a pas forcément l'habitude de nous le voir adulte quand on se promène sur ce canal-là, et ce petit bateau va commencer son voyage à Toulouse, c'est le point de départ, je dirais, du canal. Il va arriver ensuite jusqu'à la Méditerranée. Et ce petit bateau qui, en fait, est comme un personnage animé, en fait, dans cette exposition, va faire un chemin. On a beaucoup parlé de chemin. Bernard a beaucoup parlé de chemin. Mais lui aussi va faire son chemin au rythme des saisons. Il va commencer en automne. Il va finir son voyage à la mer Méditerranée au beau jour en été. Et on va découvrir par son œil tout ce qu'on peut voir sur le canal du Midi. Donc, c'est une invitation à découvrir et à redécouvrir ce lieu.
En le regardant sous un autre angle aussi. Hein,
parce en que le regardant sous un autre
vos
angle,
vos photos sont très, très elliptiques ou très, parfois même un peu énigmatiques. On se demande s'il est entre terre et ciel ou pas. On s'arrête derrière, soit sur la vue d'un mur, je crois que ça commence comme ça, hein. Mur de briques rouges, et puis par moments, là je tombe sur, j'ouvre votre livre, on voit un héron, et puis en premier plan, le petit bateau en flou. Comment vous y êtes pris pour photographier ce petit bateau? Vous l'avez suivi pied à pied, et puis pas à pas, ou plutôt, et puis vous l'avez pris en photo, en situation?
Alors en fait, c'est pas le même bateau. Je dois avouer que c'est pas le même bateau qui a fait tout le voyage, parce que une fois que je lâche entre guillemets le bateau sur le canal, ensuite je le maîtrise plus du tout. Et donc, je suis quand même. Il faut quand même que je prenne de temps en temps d'autres bateaux. Et ensuite, alors ce sont des photos qui ne sont pas. Il n'y a pas de entre guillemets de trucage. Donc c'est vraiment. Je me mets souvent au niveau de ce petit bateau et puis je peux attendre parfois une heure voire plus que ce petit bateau veuille bien se déplacer, aller à des endroits qui vont m'intéresser ou pas. Il faut savoir qu'en fait ce voyage, c'est un voyage qui m'a pris 2 ans photographique. Donc vous avez parlé d'animaux dans le livre. Et effectivement, je ne maîtrise pas non plus le héron, le passage du héron, le passage du bourdon, la toile d'araignée avec l'araignée dans sa toile qui accepte qu'un petit bateau soit à côté d'elle.
Le chat aussi, j'ai vu qu'il y a un chat qui se retrouve à jouer avec...
Voilà, donc tous ces animaux et ces personnes en fait qui font partie, alors pour le coup qui font partie du livre, qui ne sont pas dans la partie exposition, où on est beaucoup plus sur des éléments, je dirais, végétaux. Alors, végétaux, mais aussi donc l'eau, les arbres, les peupliers, les racines. Donc, on est dans cette partie, comme vous l'avez dit, beaucoup de suggestions et beaucoup de place laissée à l'imaginaire du public.
C'est un voyage poétique. Et vous me disiez, donc, en préparant l'émission, que c'est une autre manière de voyager, d'apprendre à voyager près de chez soi. D'une certaine manière, à s'évader. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette autre forme de voyage que vous essayez de mettre en valeur par vos travaux photographiques?
Alors oui, et puis d'ailleurs, j'ai noté que Gilles a dit au début que le voyage commence dès que vous sortez de chez vous. C'est un petit peu ce que j'ai envie de montrer avec ce travail photographique et puis les travaux photographiques que je fais depuis quelques années. Et effectivement, apprendre, surtout prendre du temps pour observer ce qui se passe à proximité de chez soi. Alors le canal du Midi, c'est quelque chose qui est à proximité de chez moi. C'est mon terrain de jeu. J'y vais dès que je peux et dès qu'il y a un rayon de soleil. C'est aussi ce qui a initié pour moi ce qui était au départ de ce travail-là. Mais j'ai aussi d'autres travaux où j'ai voulu montrer des points de vue. Voilà, c'est prendre des points de vue tout à fait différents qui vont montrer comment... À l'orée de chez soi, on peut faire des photos assez surprenantes et passer beaucoup de temps en s'amusant, en prenant du plaisir sur des voyages, je dirais, photographiques qui peuvent nous faire partir dans l'imaginaire.
Gilles Ruven et Bernard Michel, est-ce que vous avez arrivé encore à voyager près de chez vous? Est-ce qu'après avoir goûté au train dans le Grand Nord sibérien ou bientôt à la muraille de Chine, au contraire, on n'y arrive plus, en fait, et il faut aller très loin pour arriver à être dépaysé. Qu'est-ce que vous répondriez, Bernard Michel?
Non, il ne faut pas aller loin pour être dépaysé. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être à l'endroit où on est et profiter de tout ce que cet endroit peut apporter. Et ça peut être juste comme on dit, là, moi aussi le canal il est très près de chez moi, donc des fois je fais une après-midi de marche au bord du canal et ça me...
Et
ça
vous
me
dites pas vraiment ça vaut pas la muraille de Chine, c'est...
Non, c'est pas comparable, on peut pas comparer, et je pense que d'ailleurs l'association de Gilles est très bien pour ça, c'est que vous pouvez trouver toute forme de voyage présenté qui vont vous donner des envies soit du pays, soit de la forme du voyage. Et ils sont ouverts à toute forme de voyage et toute forme de présentation. Moi, ils m'ont accueilli de manière exceptionnelle. Et voilà, une balade de l'après-midi au bord du canal, en vélo ou à pied, ça vaut la muraille de Chine, ça vaut parce qu'on y est. On profite du moment.
Gilles Reven, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Il n'y a pas de course à l'échalote, en l'occurrence, au rendez-vous des voyageurs à des voyages toujours plus extrêmes ou toujours plus...
Non, absolument pas, on y fait attention. Hein. Et puis, je voulais dire simplement, vous allez en Ariège, dans les vallées profondes de l'Ariège, et vous trouverez exactement les mêmes paysages que vous avez en Himalaya, les mêmes constructions de maisons, même type, avec des lauzes et tout ça. Vous verrez exactement la même chose. Donc, pas besoin d'aller en Himalaya. Bon, la population n'est pas exactement la même, mais les paysages et les constructions sont les mêmes.
Pour finir, quelques informations pratiques. Alors, on va commencer avec vous, Daniel Boucon. Si on a envie de voir votre expo, donc, il faut aller au Bazacle. C'est donc en centre-ville de Toulouse. On peut trouver assez facilement. Il suffit de demander une fois qu'on est en centre-ville, tout simplement.
Oui, et c'est sur les quais. Voilà, les quais de la Garonne. C'est un très beau lieu. Donc, vous pouvez également profiter d'une balade pour y aller. Donc, c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 11h à 18h. Donc l'exposition est visible jusqu'à ce dimanche.
Dimanche 18h.
Voilà. Ensuite...
Et vous avez donc une autre exposition à la mairie de Gratin-Tours.
Alors une exposition, là aussi, c'est aussi une visite. C'est le conte. C'est un autre type de chemin et d'imaginaire. Donc qui est visible jusqu'au 12 avril à la mairie de Gratin-Tours. Ensuite, l'exposition « Voir la mer » est invitée dans le cadre du festival qui sera au mois de mai au Quai des Arts à Cugnot. Donc, il sera du 2 au 25 mai à Cugnot, avec là aussi des animations tout public et des conférences. Elle sera à la librairie Priva au mois de juin. Et ensuite, elle sera à Saint-Aurens, à l'espace Altigone, de mi-décembre jusqu'à début janvier.
Voilà, en tout cas, une belle exposition à aller voir, avec une petite surprise à la fin, pour soi-même rentrer dans le rêve ou dans la poésie de cette exposition. Pour finir, et très rapidement, donc le rendez-vous des voyageurs, prochain rendez-vous, donc c'est les mardis et les jeudis, 20h30. On peut donner l'adresse peut-être 12 rue Mercadier à Toulouse. On peut trouver une page Facebook. Et donc, mardi prochain, Pascal de Noël, Amazonie. Et autre chose à rajouter ?
Non, rien à ajouter. Sinon, bienvenue à tous. Hein. Tout le monde est invité à passer à ce moment libre.
Voilà, un site internet peut-être rdv-voyageurs.fr. rdv-voyageurs.fr. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous faire rêver et nous donner envie de voyager. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.